Bonjour à tous.
Soit on décide que tout théâtre est politique, ce qui est une façon de le dissoudre assez vite la question, soit on essaye de prendre au sérieux le mot politique en considérant que c'est un mot embarrassant et de ne pas considérer que la question elle est clarifiée une fois qu'on a dit politique, mais essayer de faire résonner ce mot politique en fonction des différents spectacles auxquels on assiste.
Théâtre est-il politique? Telle est la question soulevée par Olivier Neveu et que repose le festival INEOF d'Avignon à travers ses créations. Et si le théâtre documentaire était l'une des formes les plus prégnantes de cet engagement, mettant en scène la réalité des inégalités sociales et les corps en souffrance des oubliés du capitalisme? Celui des ouvrières de Samsonite qui, avec On n'est pas que des valises, montent sur scène pour raconter leur combat contre un fonds d'investissement voyou. Celui de Julien Fournier qui met en scène le burn-out et l'usure qu'il opère sur les esprits et les corps. Des personnes qui sont aussi des victimes d'incendies, dont les ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, et qui peinent à se faire entendre. Le théâtre offre ici une voix et un espace politique pour remettre la souffrance au cœur de la réflexion sur le travail. Puis nous dresserons le portrait de la comédienne belge Kathleen Demen, actuellement à l'affiche de la pièce Les choses qui passent, mise en scène par Ivo Van Hoff. Nous allons parler de théâtre documentaire à l'occasion de deux spectacles présentés au festival Off d'Avignon. On n'est pas que des valises d'Hélène Desplanques qui se joue à Présence Pasteur jusqu'au 28 juillet et Burning, mise en scène et interprétée par Julien Fournier jusqu'à samedi sur le site de l'île Pio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors que pensez-vous de cette réflexion de début, la question du théâtre documentaire qui peut-être serait une des formes d'expression d'un théâtre politique?
Alors moi je veux juste déjà préciser quelque chose, c'est que On n'est pas que des valises, c'est signé Hélène Desplanques et Marie Liagre.
Absolument.
Et je trouve que c'est important de le dire parce que justement c'est ce qui fait, en tout cas dans notre expérience, théâtre documentaire. Parce que moi je suis réalisatrice de documentaires à la base, je suis auteure de documentaires, j'ai réalisé un film documentaire sur les ouvrières de Samsonite et en 2010 et je n'ai jamais cessé de les accompagner. Et à un moment donné, dans cette trajectoire où j'ai effectivement filmé toute la lutte qu'elles ont menée, cette épopée, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, j'ai eu besoin de prendre part à cette action, de devenir peut-être moi-même une Samsonite. En tout cas, j'ai eu le sentiment que je devais agir.
Et les amener sur scène.
Et ben voilà. Et agir, finalement, c'était plus seulement filmer. Je les ai vus sur scène, j'ai vu leur corps sur scène, je ne peux pas l'expliquer. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de Marilia, qui, elle, est metteuse en scène et a une compagnie depuis 15 ans. Et je trouve que c'est l'alliance de nos deux parcours, là, en l'occurrence, qui a provoqué ce théâtre documentaire.
Voilà. Alors, un documentaire qui finalement devient une pièce de théâtre que vous écrivez et qui est mise en scène, et dans laquelle les ouvrières de Samsonite jouent leur propre histoire.
Évidemment, moi c'était le projet de base, comme je vous le dis, vous parlez de théâtre politique, c'était éminemment politique. Il y avait à ce moment-là une situation sur le bassin minier et à Hénin-Beaumont précisément en 2014 qui a basculé avec l'élection d'un maire FN. Et moi je me suis vraiment intimement posé la question de ce que je pouvais faire en tant que citoyenne. J'avais ce diagnostic en fait sur ce territoire qui à un moment donné avait une perte d'estime de soi. C'est quelque chose que j'ai ressenti profondément et je me suis dit comment lui redonner de la fierté. Et moi j'accompagnais cette histoire de résistance incroyable, de résilience de ces femmes qui ont démarré l'usine à 14 ans et qui n'ont eu peur de rien, qui sont allées jusqu'aux États-Unis défier les puissants, qui ont pris l'avion alors qu'elles ne l'avaient jamais pris, qui sont maintenant à Avignon sur une pièce de théâtre alors qu'elles n'étaient jamais rentrées dans un théâtre avant leurs 50 ans. Et je trouve que cet exemple-là, quand on l'a tourné dans les Hauts-de-France et qu'on l'a notamment montré aux lycéens des Hauts-de-France, eh ben ça fait politique parce que ça leur redonne une raison d'être fiers de leur territoire.
Julien Fournier, vous avez aussi travaillé sur un sujet brûlant de société, la question du burn-out qui intervient dans Burning. Et dans Burning, on a cette voix off qui raconte et vous qui incarnez encore autre chose de ces corps en vous déplaçant. Et on a toute une série de chiffres, de définitions socio-économiques qui viennent documenter justement ce que vous essayez d'incarner autrement, quoi, par le corps, par les gestes, par l'absurdité de certains déplacements, de certaines trajectoires qui représentent une des conséquences du capitalisme.
Oui, et l'idée, en fait, dans le projet, c'était d'associer un parcours physique avec un texte et un travail vidéo. C'est pour ça que j'ai demandé à Laurence Viel, qui est poète belge, pardon, je me rapproche, qui est poète belge, d'écrire un texte. Et moi, le fait de partir du burn-out, quelque part, ça faisait écho à mon histoire personnelle. C'est pas que j'ai fait un burn-out, mais disons que, en tant que circassien, arrivé à la quarantaine, je commençais à être un peu vieux pour ma discipline. Et mon parcours professionnel, c'est de lui-même un peu compliqué, puisque je faisais des auditions, j'étais pas pris, j'ai fait une autre pièce qui fonctionnait pas. Et j'ai commencé vraiment à me poser la question de la reconversion, quelque part. Et du coup, j'ai aussi interrogé un peu les gens autour de moi, et il y avait énormément de décrochages. Il y avait énormément de gens pour qui ça n'allait pas du tout.
De par un système exigeant en termes de performance physique?
Oui, des gens qui ne s'y retrouvaient pas dans leur travail, qui étaient souvent pris par des petits chefs qui étaient un petit peu dictateurs, comme ça. Et j'ai ma sœur aussi qui travaillait dans la politique parce qu'elle était directrice adjointe de la mobilité en région Bourgogne, qui a fait un gros décrochage. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'avais envie de donner la parole quelque part aux gens, mettre en lumière leurs témoignages. Voilà, et c'est pour ça que j'ai demandé à Laurence Viel d'écrire les textes de la pièce.
Alors vous dites décrochage, c'est intéressant parce que votre déplacement est celui d'une sorte de funambule sur un panneau, un plan incliné, et on voit bien à quel point la question du travail, qui recouvre vos deux spectacles, est extrêmement périlleuse, à qui on demande l'impossible à ce circassien qui se déplace sur son plan incliné et qui finalement fait ce qu'il peut pour rester debout.
Oui,
Julien Fournier.
Moi, c'était aussi l'idée, en fait, c'est-à-dire qu'en étant un vieil acrobate, pour moi, si je faisais des choses sur un pan incliné, j'étais moins soumis à la pesanteur, quelque part. J'avais plus de facilité, en tout cas, à retrouver un vocabulaire acrobatique qui n'était pas, que je ne pouvais plus faire, en fait, avec l'âge. Et aussi, je me suis dit, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est d'avoir un personnage qui est contraint par son environnement. Donc avec ce plateau qui s'incline.
Avec des cartons, hein, racontez-nous ce qu'on voit sur scène. Il y a des cartons que vous empilez, vous jouez à Tetris, hein, vous les empilez, vous les désempilez. Et tout ça, on a le sentiment que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des procédures qui vous dépassent et des gestes répétitifs. C'est un peu l'histoire du Petit Prince. On allume, c'est la consigne. On éteint, c'est la consigne.
Oui. Puis l'idée, c'était aussi vraiment d'être en relation avec le texte, voilà, d'aller chercher. Comme on a procédé, c'était un petit peu par collage. En fait, avec Laurence, on a un petit peu sélectionné des gens qu'on voulait interviewer. On a commencé par ma sœur. Et puis, on a procédé par collage sur des enregistrements de Laurence. On a commencé à voir avec Yannick qui faisait la vidéo ce qui pourrait être intéressant au niveau du mouvement. Et effectivement, comme ça parlait du travail, on s'est dit comment matérialiser le travail quelque part. Et quelque chose qui fonctionnait assez bien, c'était les cartons. Parce que voilà, l'empilement des cartons, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la mécanique et en même temps, qui pouvait développer une certaine virtuosité quelque part, mais une virtuosité un peu revisitée.
Alors une virtuosité qui rappelle aussi celle de l'usine, hein, l'usine qui apparaît dans justement votre texte et aussi sur scène, Hélène Desplanques, à travers la question des valises et de la chaîne et de l'usine. C'est une incarnation du réel à travers aussi sa forme un peu de thriller, puisque c'est une histoire à rebondissement, c'est un fait divers au départ. D'ailleurs, ça a commencé sur un projet documentaire pour vous. Y a cette idée de prendre le réel comme un matériau de fiction qu'on va transporter au théâtre.
Mais totalement. Moi, de toute façon, j'ai toujours considéré le réel comme cela, comme un terreau inépuisable d'histoires extraordinaires, parce que c'est mon métier de base, de 15 ans de documentaire, c'est ça, c'est s'intéresser à ce qui vous entoure et y déceler des histoires qui vous terrassent. Et les Samsonites, pour moi, ça a été un coup de foudre dès le départ. Je me souviens encore de ma rencontre avec elle en janvier 2007. Aujourd'hui, sur scène, ce qu'on a été chercher à recréer avec Marie Liagre, c'est cet attachement incroyable déjà qu'elles ont avec l'objet qu'elles fabriquent. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on a perdues de vue aujourd'hui, mais la valise pour elles, c'est encore aujourd'hui, quand je les filme, elles caressent les valises qu'elles ont fabriquées il y a 11 ans, parce qu'elles en ont toutes chez elles, évidemment.
C'est un objet sacré.
Mais oui, et elles disent, mais qu'est-ce qu'on fabriquait ça avec attention, mais qu'est-ce que c'est de la qualité. C'est une qualité extraordinaire. Et elles ont une fierté encore aujourd'hui à avoir fabriqué ça. C'est leur usine. Ce n'est pas l'usine de Samsonite. Et ça, elles le disent aussi. Et c'est aussi pour ça que les gens, quand ils ferment de cette usine et qu'ils le font, effectivement, comme vous le dites, de manière totalement illégale, frauduleuse, dans un non-respect incroyable de la personne humaine, ils touchent à ce qu'elles ont de plus sacré. Et elles ne se laisseront pas faire. Et 11 ans après, elles sont encore en procédure judiciaire.
Alors, c'est l'histoire d'un fait divers au départ qui devient une sorte de lutte contre le système, ou en tout cas emblématique d'un système financiarisé. Ouais. Avec,
moi, c'est vrai que j'ai écrit la pièce comme ça, parce que pour moi, tous les c'est comme sur un échiquier. Tous les pions y étaient. C'est-à-dire que, pour résumer, ces femmes du bassin minier, elles attaquent Samsonite, mais aussi surtout Bain Capital, qui est un grand fonds d'investissement américain. Et en 2012, elles sont invitées par des ouvrières de Chicago qui se battent contre Bain Capital. Et c'est là qu'on réalise que le patron de Bain Capital, c'est Mitt Romney, c'est le type qui se présente face à Barack Obama aux présidentielles américaines.
C'est et le bout de la chaîne, hein, puisque l'idée, c'est de suivre la chaîne de fabrication et à laquelle on ne comprend plus grand-chose. Hélène Desplanques, c'est là où la contestation, elle passe des acteurs des Nains Beaumont au système mondial globalisé, puisqu'on arrive aux États-Unis, on arrive face à un candidat à la Maison-Blanche et face à un système dont on ne sait plus qui fait quoi et qui est responsable de quoi.
Oui, et l'avocat le dit très bien, il dit, mais rien qu'aujourd'hui, pointer du doigt celui qui est responsable de l'affaire de votre site, c'est-à-dire au moins savoir l'identifier, savoir où il est et pouvoir l'attaquer, en l'occurrence là dans un tribunal à Boston, ça prend des années. Et si on ne se donne pas le temps de ces années-là, mais imaginez l'énergie, puisque aujourd'hui, 11 ans après, on est encore en procédure. Cette énergie-là, elle doit être déployée. Alors là, effectivement, là, on est au cœur d'une lutte de David contre Goliath. Ces femmes-là, elles ont le ventre pour la déployer. Mais combien, effectivement, d'autres luttes ne sont pas menées jusqu'au bout ?
D'autant plus qu'il y a des ressorts, pardon de le dire comme ça, mais romanesques, en tout cas dramaturgiques à cette histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne aussi sur les planches. C'est parce qu'il y a des personnages, comme celui de l'avocat Fyodor Rylov, qui est un personnage de héros, de chevalier preux, qui va venir les aider, qui se fera très peu payer, qui va venir aussi alimenter ce combat et les aider.
Ben, c'est-à-dire que ça, après, il y a la pièce et il y a le réel quand même, et il y a la scénarisation du réel, comme je dis toujours. Et effectivement, au théâtre, même Mitt Romney, que j'ai adoré pouvoir mettre en scène, parce qu'en documentaire, ce qui, moi, m'arrêtait à un moment donné, c'est que ce fameux puissant financier américain, j'aurais pas pu passer des semaines à ses côtés, à observer la moindre de ses pensées, à écouter ses conversations avec sa secrétaire, et la façon dont il réfléchit, dont il pense le monde. Ça, c'est ce que je peux mettre sur scène. Et pour moi, au-delà de Fyodor Rylov, vraiment la jouissance de ce texte théâtral, c'est de pouvoir, pour le spectateur, avoir ces deux trajectoires de façon parallèle entre des ouvrières du Pas-de-Calais à Hénin Beaumont et Mitt Romney aux États-Unis, maître du monde, quoi.
500 000 Belges sont malades du travail. En 10 ans, le nombre de travailleurs invalides a augmenté de 40%. En cause, stress social et absence de prévention. Un plan de lutte est lancé. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. À l'origine, burn-out est un terme de l'industrie aérospatiale. Il désigne une fusée qui décolle, dont le carburant vient à s'épuiser, avec comme conséquence la surchauffe du moteur et le risque d'explosion de l'engin.
Julien Fournier, on entend cette voix off qui porte ce message, la voix off de Laurence Viel, que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, qui porte ce texte, et c'est comme si finalement le cirque poétique, le spectacle, prenait sa part dans la réflexion sur le travail, sur ce que fait le travail aussi au camp. On renoue avec tout un pan de la fiction qui contestait aussi les effets de l'usine, du taylorisme, du fordisme. C'est aussi Chaplin, et c'est tout cet héritage artistique que vous reprenez, Julien Fournier, à travers ce spectacle.
Oui, absolument. Et voilà, c'est aussi tout ce, tout ce travail de corps autrement. Et puis, moi, la grande question aussi, en tant qu'acrobate vieillissant, c'était comment, quelque part, basculer de la virtuosité vers plus d'expressivité, quelque part. Et donc, essayer de développer
un travail...
Donc,
c'est une transition
artistique. C'est aussi une transition artistique qui a été amenée par la contrainte, par la perte d'habileté, entre guillemets. Et donc voilà, c'est comment aller chercher du sens. Et comme moi, je ne développe pas un travail sur les mots, je trouvais intéressant d'essayer de comprendre comment on pouvait nourrir un parcours physique de sens et inversement aussi. Je crois que ce qui est une des forces du spectacle, c'est qu'à un moment, le corps vient dire ce que les mots ne disent plus et inversement.
Alors il y a cet espace chiffré, cet espace de responsabilité à la chaîne, de contraintes qui assomme l'individu, dont on comprend qu'il est déplacé d'un emploi à un autre et qui perd complètement le fil et le sens de son emploi. Mais il y a aussi ce basculement dans la coupure, le burn-out et un univers totalement poétique et imaginaire qui est celui de la rupture. Et si ce système-là se brisait au théâtre, en tout cas au spectacle, et arrivait dans une sorte de zone poétique, Julien Fournier.
Ben, c'est aussi que dans le burn-out, c'est un moment de, je pense, de grand questionnement. Généralement, les gens qui ont ce craquage, ils se retrouvent dans une période où vraiment tout se questionne en fait, où on se dit mais c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je fais. Ça arrive généralement. Une période... nous, la plupart des gens qu'on a rencontrés, c'était des gens qui avaient entre 40 et 50 ans dans ces eaux-là. Et donc, il y a une grosse remise en question. Moi, ma sœur, après son craquage, en fait, où elle a fait toute sa vie de la politique, elle est partie faire de la pâtisserie au Chili à 50 ans. Elle s'est dit, c'est le moment de réaliser mon rêve, quelque part. Donc, c'est toute cette dimension, en fait. C'est vrai que c'est une dimension poétique, mais c'est plus une dimension du questionnement du sens de la vie, quelque part.
Et... Alors, la personne avec qui vous avez travaillé, d'ailleurs, vous êtes en collaboration artistique, et Laurence Viel, elle dit qu'elle travaille dans un documentaire politico-poético-chorégraphique. Alors, c'est dans ce mode d'expression-là, Julien Fournier, que vous avez eu envie de travailler dans l'espace, peut-être, que recréer la scène de théâtre, qui permet peut-être un peu de temps, une autre manière de bouger, tout ce qu'on ne pourrait pas faire dans un autre mode de contestation, de réflexion.
Oui, certainement. Par rapport à la pièce, en fait.
Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très. On a le sentiment vous-même que vous vous recroqueviez pendant le spectacle. À la fin, il y a cet équilibre, d'ailleurs un peu inquiétant, avec une musique qui est aussi très présente, très rythmée. On a le sentiment que vous êtes, au contraire, au lieu d'être l'acrobate qui court dans tous les sens, c'est aussi l'acrobate qui peut-être est toujours en train de risquer quelque chose.
Mais ça c'est dû quelque part, c'est la scénographie. Pour moi, en tout cas, c'était la scénographie qui induisait la dramaturgie de la pièce, vu que, normalement, on essaye de pas trop en parler du dispositif, mais il y a quelque chose qui devient de plus en plus contraignant et qui, du coup, limite de plus en plus les possibilités de mouvement. Et donc, oui, ça raconte en tout cas quelque chose qui devient de plus en plus difficile et de plus en plus dans le peu, dans le lâchage, dans le glisser, dans le...
Il n'y a pas tellement de notes d'espoir, en réalité.
Ben quand même, puisque ça termine aussi sur cette définition du burn-out qui est de Graham Greene, qui, en fait, le burn-out, ça venait de la lèpre, au départ, et donc c'était le processus, une fois que la lèpre avait brûlé complètement le corps à l'intérieur, quelque part, et bien, à partir de là, il y avait une renaissance qui se produisait. Et donc, c'est aussi de ça que ça parle. Donc, à la fin, il y a quand même une ouverture, entre guillemets.
Une ouverture, une liberté qui a été créée.
Et il y a une liberté qui a été créée. C'est quelque part un mal pour un bien, me semble-t-il, en tout cas, qui va vers du mieux.
On va écouter un extrait des valises.
Tant que vous n'aurez pas payé notre salaire du mois, vous sortirez pas d'ici.
Regardez-nous dans les yeux pour une fois. On va vous séquestrer. Ouais. Et nous, on ne lâchera rien.
Vous avez touché à nos salaires, vous touchez à nos enfants. C'est et ça, bien. Je ne l'accepterai jamais.
Et tous ceux qui ont un crédit sur le dos, une maison à payer, vous y pensez?
C'est vrai, Josiane. Alors,
si vous croyez que vous pouvez arrêter de nous payer comme ça d'un coup et qu'on va rien vous dire. On voit bien que depuis que vous êtes arrivé, l'usine ne fonctionne plus comme avant.
C'est vrai, ça.
Nous, on a dit, ouais, boulot. Ouais. Alors, faudrait pas nous payer, maintenant.
Calme-toi.
Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est notre salaire.
Notre salaire, pas de travail.
Hélène Desplanques, qu'on entend la mise en scène de Marie Liagre, que vous avez évoquée, avec aussi un procédé de voix off, mais c'est la voix off d'une enfant qui guide le spectateur.
Bien sûr, Maëva. Maëva qui existe vraiment dans la vie, je la salue si elle m'écoute d'ailleurs, qui était la petite fille de René, la leaduse des Samsonites. Moi j'ai observé pendant 11 ans, le sous-titre de la pièce, ça pourrait être « De la lutte sociale enseignée à ma petite fille ». Pendant 11 ans, c'est une lutte de femmes que j'ai observée. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, 80% de femmes à l'usine Samsonite. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que les enfants, puis aujourd'hui les petits-enfants, puisque l'âge aussi avance.
Qu'elles sont pour une part d'entre elles à la retraite. Pour
tout à fait, elles sont grand-mères et elles ont toujours eu cette... Mais c'est même pas réfléchi, c'est un instinct. Les gamins sont toujours là, que ce soit en salle d'audience, que ce soit dans les manifs, que ce soit quand on prépare les banderoles ou quand on fait les lettres qu'on envoie à tous les adhérents de l'association et on met ça dans des enveloppes et ça dure des plombes. Et ben les gamins, ils sont là, ils font les photocopies, ils aident. Et ça enseigne quelque chose de fondamental pour moi, c'est que la lutte, ce n'est pas des grands mots, des grands discours dans un café du quartier latin. La lutte, c'est une salle des fêtes dans le bassin minier et c'est physique. C'est quel sandwich on va faire pour la manif de Paris? Thon ou jambon beurre? Et c'est des actes très concrets. Et ces femmes-là, elles posent des actes concrets. Mais c'est concret aussi que d'aller aux États-Unis, à Boston, pendant une semaine, dans un tribunal américain, quand on pipe pas un mot d'anglais, de s'asseoir dans cette salle qui est très impressionnante, dans un univers dont on n'a absolument aucun code, et juste, voilà, concrètement, on est là et on se bat, juste en s'asseyant dans cette salle d'audience à Boston. Et donc, le fait que Maëva raconte l'histoire, pour moi, c'était essentiel, à plus d'un titre. D'abord pour raconter cette histoire-là, que je viens de vous évoquer, mais aussi parce que j'avais, comme j'ai déjà dit, cette envie, ce besoin viscéral de pouvoir faire passer ce système opaque, complexe de la finance mondialisée à des gamins de troisième.
Alors voilà. Ça, il faudrait peut-être s'y arrêter quelques secondes à ce système, puisque ça décrit en réalité une faillite, en tout cas ce qui passe pour une faillite, et qui est en fait une sorte d'arnaque.
Tout
peut-être
à fait.
Vous pouvez nous en donner oui. Un petit peu les grandes lignes.
Tout à fait. Ça ne s'est pas passé qu'à Samsonite. Hein. C'est ce qu'on appelle une fermeture frauduleuse. C'est-à-dire qu'un grand groupe international, là en l'occurrence Samsonite, choisit de ne pas fermer son site français. Et là, c'est intéressant de dire français parce qu'en France, il y a le problème du droit du travail, de la contrainte des plans sociaux et puis des médias, etc. Tout ça, ça pèse sur la décision de ce grand fonds d'investissement et de cette firme internationale qui s'appelle Samsonite. Et du coup, en l'occurrence, ils préfèrent céder le site à des repreneurs. Dans ces cas-là, ils leur donnent d'ailleurs des subsides. Ça s'appelle payer pour partir. Mais payer pour partir, c'est-à-dire on préfère ne pas mettre 50 millions d'euros dans un plan
de licenciement,
mais donner 20 à 30 millions d'euros à un repreneur, ça peut être tout à fait vertueux. Complètement vertueux, c'est-à-dire qu'un petit repreneur qui va se faire aider par la grande firme et qui va lui, à son niveau, parce qu'il n'a pas évidemment la demande du fonds d'investissement derrière et de la bourse, etc., de faire 15, 20, 25% de marge, etc., va pouvoir reprendre le suite.
Donc mais on va se retrouver avec des ouvriers qui ne sont pas indemnisés.
Oui, mais là, le problème, c'est que ça a été manipulé, c'est-à-dire qu'on peut aussi payer pour partir, mais en faisant une fermeture frauduleuse, c'est-à-dire se défausser d'un site industriel en embauchant des repreneurs qui seront des repreneurs voyous. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Samsonite, c'est que les deux types qui ont repris l'usine et qui ont dit qu'ils allaient faire des panneaux solaires, l'histoire est jolie, n'y a jamais eu un panneau solaire de fabriqué dans cette usine. Se sont retrouvés ensuite, donc ont déposé le bilan 18 mois après, en liquidation pure. Et donc, du coup, les ouvrières, après 20 ans de boîte, elles touchent 4 mois de salaire versé par les AGS, c'est-à-dire à peu près rien.
Et ça a tellement changé de main qu'on a de la peine à voilà, retrouver la trace.
Voilà, donc vous avez les forepreneurs, Samsonite, le fonds d'investissement. On a 3 niveaux de responsabilité à remonter.
Et on passe d'Hénin Beaumont aux États-Unis en quelques secondes. Julien Fournier, vous, parce que dans votre travail, on retrouve cette critique aussi qui est très présente pour Samsonite des supérieurs hiérarchiques, de ce que justement la hiérarchie verticale peut entraîner comme conséquence, notamment psychique, sur les individus. Alors comment est-ce que justement vous avez décidé de trier parmi l'immense matériau de témoignages que vous aviez au départ?
Mais en fait, on n'en a pas fait tant que ça, des témoignages. Et aussi, ce qui était assez chouette, c'est qu'on n'a pas eu besoin de chercher très loin. Enfin, assez chouette. On n'a pas eu besoin de chercher très loin pour avoir vite des témoignages qui étaient très, très intéressants.
Ça montre à quel point c'était au cœur de ce qui se passe.
Absolument, absolument. Et...
Et donc du coup, il y avait ce matériau de savoir est-ce qu'on utilise les témoignages qui parlent du corps, est-ce qu'on utilise les témoignages qui critiquent la hiérarchie, ce que ça fait.
Mais en fait, nous quelque part, on avait une somme de témoignages et on a laissé assez libre en fait. On n'a pas fait une grande sélection dans les témoignages qu'on avait. Et moi, ce que j'ai trouvé génial en fait dans le fait de travailler à partir de témoignages et de réécrire, c'est que les gens donnent toute la complexité de leur vie et de comment ils voient les choses et de comment se passe leur travail. Et donc, très vite, les témoignages sont super intéressants. Et ce truc de mécanisation, quelque part, d'optimisation, de hiérarchie, tout ça, on voit bien que c'est qu'en inventant des systèmes qui sont censés optimiser, quelque part, on comprime complètement l'humanité un peu à l'intérieur de ces systèmes-là.
Et on enlève l'individualité de chacun.
On enlève l'individualité de chacun. En tout cas, ma sœur, dans son témoignage, c'était très clair. Elle, quand ça a été restructuré, elle disait on avait des numéros, il y avait un N-1, un N+1, on ne pouvait plus référer qu'à son N+1 et inversement. Enfin voilà, on coupe les liens entre les individus comme ça, et voilà, c'est un système pyramidal, voilà, qui pour elle l'a vidé complètement du contenu de l'ensemble de son travail.
Hélène Desplanques, on s'est posé la question de, dans l'entreprise, les tâches qui sont interchangeables ou les gens qui le sont dans les entreprises, en tout cas ce que l'on croit, ce qu'on fait croire. Vous avez décidé de faire des ouvrières, en tout cas ça a été le projet, de faire des ouvrières des comédiennes, en tout cas de les mettre sur scène. Alors qu'est-ce que ça dit aussi du théâtre? Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de projets comme ça qui ont décidé de faire du théâtre avec des gens qui n'étaient pas nécessairement des professionnels. Mais pourquoi on passait par ce mode d'expression-là alors que vous aviez accès aussi à d'autres formes de médias par exemple?
Alors écoutez, honnêtement, c'est une révolution. Et ce pourquoi-là dont vous posez la question, je peux y répondre aujourd'hui après 2 ans de tournée. J'avais pas mesuré à quel point, pour elle, pour moi, pour toute la troupe professionnelle et comédienne ouvrière, c'est une révolution. Et c'est extraordinaire ce qu'on vit.
Mais c'était le bon médium, le théâtre, pour faire ça?
Ah mais totalement, parce que, comme vous dites, elles sont comédiennes, mais elles sont actrices du combat. Elles étaient actrices de combat dans les salles d'audience, et à un moment donné, quand j'ai eu envie de prendre ma part, c'était aussi de dire qu'est-ce que je peux faire comme relais. Parce que après 7 ans, 8 ans de lutte, on fatigue de façon légitime. Et le fait de les remettre sur scène, ça leur a redonné une énergie, un pouvoir. Il y a une forme d'autoréalisation, c'est-à-dire que le fait qu'on gagne maintenant en justice, parce qu'on a gagné dans la cour d'appel de Douai le 17 mai dernier, une décision assez symbolique, j'ai l'impression que c'est aussi l'énergie du théâtre qui communique avec la vie, voyez, parce que quand je les vois là à Avignon, quand je nous vois pendant un mois faire communauté, on est 26 à table et être sur scène le soir et vivre ensemble la journée, je me dis que voilà, que ces femmes qui connaissaient pas Avignon, Raymond n'était jamais allé dans le sud, Raymond prend ses vacances dans le Pas-de-Calais, voilà. Et on est là aujourd'hui
pour les admirer. Merci Hélène Desplanques et Julien Fournier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Hélène Desplanques, je rappelle que votre pièce « On n'est pas que des valises » est à l'affiche du Festival Off jusqu'au 28 juillet. Et vous, Julien Fournier, Burning se joue jusqu'à samedi sur le site de l'île Piau en Avignon. Et tout de suite, c'est l'heure du live de la Grande Table avec aujourd'hui Abdoulaye Miani, accompagné au saxophone par Peter Corser et au violoncelle par Carsten Hofschafter. Bonjour.
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 Qu'est-ce que vous allez... Merci d'être là. Qu'est-ce que vous allez nous jouer?
Alors, nous allons jouer un morceau qui s'appelle Jardin, qui est une composition, c'est un texte d'Abdoulaye avec une mélodie d'Abdoulaye, avec une composition d'accord à moi. Donc voilà, composition de groupe.
On vous écoute alors. Merci. Merci.
حملت أن شوقي والمنايا تجمع وصل بعضي كل فوقي وألقت بالعبايا تنتي ونبت مرضي ما حامت بيا وليت ما حامت بيا تحوي بقبعتها حلية لا تلوح تزداد روحي حمرة من كل ساحل لسوح راحت وأسررت
Merci, merci à vous, Abdoulaye Miani, Peter Corser et Carsten Hofschafter, d'être venus jouer en direct de la Grande Table. Hier, vous avez fait un triomphe ici à Avignon et vous serez en tournée cet automne, notamment le 5 octobre au Théâtre 71 de Malakoff avec Guillaume et Eric Truffaz.
France Culture, la Grande Table d'été, par Maëlys Bessery.
Comédienne fétiche de la scène flamande, elle incarne Ottilie, enfin deux des Ottilie dans Les choses qui passent, la dernière création d'Ivo Vanoff présentée au Festival d'Avignon. Une pièce adaptée du roman de Louis Coprus qui met en scène la famille, une tragédie en soi. Kathleen Damen, bonjour.
Bonjour.
On va justement parler de cette pièce, mais avant de parler de cette pièce, parler de votre travail avec des metteurs en scène privilégiés de la scène flamande, Guy Cassiers bien sûr et Ivo Vanhoff. Alors ça a commencé comment cette histoire avec Guy Cassiers, puisque finalement ça avait, vos débuts sur scène ont été un peu difficiles. Vous racontez avec un certain humour le temps qu'il a fallu pour passer les examens du conservatoire, toute cette période un peu difficile, et puis il y a eu des rencontres merveilleuse avec des gens qui venaient révolutionner la scène flamande.
Oui, je veux m'excuser parce que mon français n'est pas parfait. Je n'étais pas une bonne étudiante. Alors je vais me débrouiller. Oui, j'ai eu énorme chance de travailler avec Guy Cassiers et puis Ivo Vanhoff. Ils sont tous les deux des metteurs en scène fantastiques. Ils ont beaucoup d'imagination et ils ont une souplesse et des idées très beaux. C'est fantastique de. Oui, c'est difficile d'expliquer. Ils ont tous les deux une sorte de merveilleux dans leur tête et dans leur cœur. Ils aiment beaucoup les acteurs aussi. Ils aiment les comment on dit ça
oh, pardonnez-moi. Vous faites des gestes avec vos mains pour montrer un grand paysage.
Oui.
Qu'on imagine.
Oui, mais c'est vrai.
Il faut raconter ce que c'est que cette scène néerlandaise et ce qu'ont représenté des metteurs en scène de cette génération-là qui oui. sont venus réinventer complètement le théâtre, introduire peu à peu la vidéo mélangée avec de la danse, tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui n'existait pas du tout.
Non, mais c'est bizarre parce qu'en Belgique, on est très un peu trop modeste. Parce que il y a vraiment beaucoup de talents et ils ont travaillé depuis longtemps avec des vidéos et tout ça. Et en Belgique, c'est une sorte de oui, c'est bien, mais c'est oui, c'est nous, c'est pas tellement fantastique, mais c'est bien. Et puis quand on allait en néerlandais, parce que premièrement on était en néerlandais et c'était on s'appelait, c'était le flamand wave.
Une vague.
Oui, un flamand, vague flamande. Et c'était très, oh, qu'est-ce qui se passe ici en Hollande avec les...
La
les...
mode des vidéos qui sont arrivées aussi jusque en Allemagne. La Schaubühne aussi a oui. beaucoup utilisé le travail de Thomas Ostermeyer. Et vous, on vous a vu dans plusieurs grandes créations. Vous avez été presque de toutes ces grandes créations théâtrales de ces dernières années. À sa voix de Guy Cassiers d'un côté, il y a eu Orlando, il y a eu Les Bienveillantes. Dans Les Bienveillantes d'ailleurs, vous avez joué le seul personnage historique réel, Eichmann. Un oui. homme joué par une femme.
Oui, c'était très bizarre Amen. Parce que j'avais peur parce que c'est pas un homme sympa, un homme.
Non, c'est sûr. Eichmann n'était pas un homme sympa.
Mais pour moi, c'était le seul homme où on pourrait rigoler avec parce que c'est pour moi la seule chose pour moi pour jouer ce personnage parce que c'était.
La dérision.
Pardon.
Se moquer de lui, la dérision.
Non, pas vraiment moquer, mais on devait. Je voudrais trouver une raison pour le jouer, pas pour mettre un homme terrible, mais pour lui faire un peu. Oui, un peu bizarre, un peu. Pas tout à fait complet dans sa tête. Et c'était un peu bizarre, un peu. J'ai fait des mouvements très stricts. Alors j'ai travaillé avec un peu d'humour et mais pas pour moquer, pour lui faire dans, mais pour montrer que c'est un personnage qui est humain et pas très très bon. naturellement, mais oui.
Vous avez été, on le disait, de toutes ces histoires. Alors, Ivo Vanoff, c'est aussi une grande histoire. Et là, à Avignon, ce sont les choses qui passent. Alors, les choses qui passent, c'est l'extrait, enfin, l'adaptation théâtrale d'un grand roman, d'un roman de l'écrivain hollandais Louis Coprus, qui est pas si connu que ça, en tout cas hors de sa langue, notamment peut-être parce qu'il a été moins traduit. C'est un auteur de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qu'il a adapté.
Oui, c'est très bizarre parce que en Hollande, il est très populaire, tout le monde doit rire tous ses livres. Et en Belgique, on lui connaît, on devait lire deux ou trois livres.
On le compare à Thomas Mann, à Proust,
pour faire
des parallèles.
Oui, mais pour moi, Coupé, c'est plus il y en a des comment on dit ça? C'est beaucoup plus profond.
Vous faites des mouvements, vous êtes très physique dans votre expression. Je me permets de décrire vos mouvements. Vous décrivez des couches successives.
Oui, c'est ça. Ce sont vraiment beaucoup de couches. Et c'est bizarre parce que ce spectacle, quand je suis sur scène, j'ai toujours un moment que je dis à moi-même, oh, comme c'est si beau ce spectacle. Parce que c'est... Et beaucoup de...
De strates.
Oui, c'est vraiment fantastique.
C'est peut-être le parallèle qu'on peut faire avec Proust, qui est aussi son contemporain. Vous avez aussi joué Proust, mis en scène par Guy Cassers. C'était un cycle que vous avez pu accompagner. Est-ce que, pour vous, ce parallèle entre ces deux textes-là, qui représentent aussi la même époque, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que c'est justement ces ressemblances-là littéraires de cette période du début du XXe siècle vous paraissent pertinentes?
Oui, je comprends la comparaison, mais pour moi, Proust est plus philosophe, plus dans la tête, complexe et vraiment bizarre. Et, oui, pardon. Et Coupé, c'est plus dans
plus
la
ancré.
Terre. Oui, plus... Mais c'est beau, tous les deux, hein, c'est magnifique. Pardon.
On va écouter un extrait du spectacle « Les choses qui passent ».
Waarom ben je bang?
In het begin was ik bang voor de mensen. Toen was ik bang voor mezelf. En nu het nadert, ben ik bang voor God. Vergelding.
Wij moeten wachten en de dingen die na ons komen dulden. Want wij kunnen er toch niks aan doen.
Mama! Mama! Papa!
Ik weet niet, maar ik voel dat een geheim u drukt.
Om wat?
Om iets dat gebeurd is.
Er is niets gebeurd. Laat me alleen. Ik hoop nooit oud te worden. Je geheugen wordt dof.
Kathleen Damen, faut que vous nous racontiez ce qui est en train de se passer, puisque c'est en néerlandais. C'est un extrait du spectacle, qui est une sorte de teaser qui a été fait pour assurer justement sa promotion. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène?
Oui, il y a il s'agit d'une famille, et la famille avec des secrets. Et il y a un grand secret par deux personnes, une femme et son amour. Ils ont tué le père et un des enfants a vu le meurtre.
Ils ont vu porter le cadavre sur le
dos.
Oui,
c'est ça. Il a vu ça. Mais il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Alors c'est une famille qui porte des secrets tout le temps et la femme et l'homme qui sont des amants, ils ont eu un bébé, c'est moi. Et c'est aussi un grand...
Ottilie.
Oui, Ottilie, c'est aussi un grand secret, elle ne sait pas. Et c'est toujours, on ne dit pas, mais on... Oui, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est toujours... Très, très...
La pesanteur du secret. Hein,
Oui, mais on a tout dans les familles, il y a quelque chose. C'est parfois, la famille est parfois très... J'ai mis en...
Vous cherchez quelque chose dans votre sac.
Dans mon sac, j'ai mis en papier ce que je voudrais dire en français. décisif.
décisif, absolument.
Oui, je trouve ça un mot très bel et très chargé aussi, parfois. La famille.
Mais qu'est-ce que c'est que la famille ? Là, ce qui est mis en scène, c'est, il y a ce texte quand même très beau, très poétique,
oui.
Adapté, mais dont on comprend que les structures et la poésie a été conservée, juste adapté au théâtre par Ivo Vanoff. Et quand il parle de la famille, en réalité, il y a un drame, il y a des secrets, mais c'est ce qui se passe d'une certaine manière dans toutes les familles. Il y a cette question de, oui. Finalement, la famille en soi, c'est une cellule tragique.
Oui, et maintenant, c'est un grand secret. C'est pas dans toutes les familles des secrets comme ça.
On n'a pas forcément tué quelqu'un toujours.
Non. Mais je trouve dans ma famille, c'est parfois très. Je dois téléphoner à ma mère parce que si je ne téléphone pas, elle est triste. Et si elle ne me téléphone pas, c'est pas dans toutes les familles, mais ça peut être très. C'est le sang aussi, le sang de. La famille.
Les
la...
liens.
Oui.
Il y a cette question du mariage, en tout cas de la structure telle qu'elle a été organisée. La famille, c'est les parents, les enfants, le mariage. Et finalement, la liberté de l'individu se retrouve complètement enfermée dans cette histoire des choses qui passent. Et c'est la famille, on se demande à quoi elle survit en réalité. Qu'est-ce qui survit de ce projet familial de départ ? Vous êtes Ottilie, oui. Mais Ottilie, c'est la mère, c'est la fille.
Oui.
Tout se mélange, oui. Les liens parents-enfants sont compliqués, sont édipiens, un peu incestueux. Finalement, on a le sentiment que la famille, c'est une structure très extérieure à ce qui se passe vraiment.
Oui, mais à la fin, on a besoin de notre famille. On a besoin de. J'ai besoin de ma mère. Elle a besoin de moi. Et c'est dur parce que Lot, mon fils, il veut marier avec sa fiancée. Et mais la relation entre la mère et le fils est très très très
fusionnelle.
Oui, et pour lui, c'est très dur de partir. De sa mère. Il le fait, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Est-ce qu'il y a un ancrage culturel un peu nordique, un peu de racines germaniques dans ce texte, ou est-ce que pour vous, il est totalement universel ? On pense à la tradition aussi de textes néerlandais, mais aussi allemands, à Thomas Mann, on oui. pense au Buddenbrook, et à cette histoire justement de génération et de ce que l'on transmet, et ce que l'on transmet des traumatismes et des souffrances, à ce que la famille peut faire de mal et de toxique à l'individu. Est-ce qu'à votre avis, cette histoire-là, c'est aussi une histoire néerlandaise, en ce sens-là ?
Non, je pense que c'est universel et c'est bien parce qu'on a besoin d'une famille parce que c'est maintenant ce qu'il passe par les gens qui fuient leur pays et ils vont en Belgique une fois les enfants étaient
séparés
par leurs parents, c'est affreux. On a Même si la situation n'est pas parfaite, si la situation n'est pas bonne, on a besoin de la famille, c'est vrai. C'est...
Vous parlez des migrants, vous parlez
oui,
de l'immigration en Belgique.
Oui, mais oui, oui. Mon frère a décédé 3 ans passés, et et on n'est pas tout le temps tous ensemble, mais ça. Ça, oui, je trouve que la famille est très importante. C'est ça ce que je veux dire. Et même si ça ne marche pas très bon, c'est la solution, je pense. C'est l'amour aussi.
En tout cas, le texte, il pose la question de comment on peut faire à l'intérieur de cette famille-là pour se débrouiller. Il y a ce projet de Lotte et Ellie, de la génération d'après, d'essayer de se libérer des traumatismes dus à ce meurtre originel. Vous, dans ce théâtre d'Ivo Vanoff, vous incarnez un théâtre très physique, très empreint aussi de mouvements précis,
oui.
Chorégraphiés. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le corps cette mise en scène, justement, avec Ivo Vanoff et, je crois, aussi un chorégraphe dont je ne saurais prononcer le nom.
Non, mais c'est bizarre parce que le chorégraphe a seulement... au début, on avait moi, Lotilly, à Nice. avec son amant, pardon, Aldo. Normalement, on avait eu une danse entre nous deux. Et c'est pour ça qu'on avait le chorégraphe. Mais toute la pièce, on a fait nous-mêmes, les acteurs,
Le metteur en scène.
Oui, le metteur en scène.
Décider ce que fait le corps, c'est très précis. Les corps, la famille arrive parfois sous la forme d'une ombre, hein, ça déambule comme un cœur au fond de la scène. Et puis, il y a aussi ces mouvements étonnants qui arrivent, une sorte de striptease pour une lune de miel.
Oui, mais on a bien parlé, mais on n'a rien vraiment fixé. C'était très bizarre. Dès le commencement, on a le sens de ce qu'on devait faire était dans notre corps. Et c'était vraiment très organique. Et oui, Ivo a dit on doit faire tout ensemble et les choses là-bas, plus près, ensemble. Il a dit des choses, mais... C'était très organique, c'était très normal, c'était très facile. Il n'y avait pas Ivo qui disait, toi tu passes par là et toi tu passes par là.
Vous avez travaillé ensemble.
Oui, vraiment. Il nous donne beaucoup de la liberté pour faire des choses. Parce qu'au commencement, moi j'étais très 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 physique. Et on pensait, oh, c'est pas trop physique.
En comparaison.
Oui. Par les autres qui étaient très, très lentement. Et ils vous disaient non, on a besoin de cette...
De ces contrastes.
Oui. Et je trouve ça très admirable de sa part de nous donner la liberté.
Kathleen Demen, c'est pas pour rien que vous êtes très physique, c'est que vous avez travaillé aussi avec ce mélange de théâtre et de danse. Il faut dire que sur la scène flamande, il y a eu cette forte influence de la danse, et notamment de Pina Bausch. Je vous propose d'écouter Pina Bausch. C'est une archive qui a été diffusée le 14 mai 77 et que l'on a retrouvé dans l'heure bleue de Laura Adler sur France Inter.
Je crois, ich habe nicht sehr viel mit der Tanzszene an sich zu tun in Deutschland.
Je pense que je n'ai pas grand-chose à faire avec le théâtre de danse en Allemagne. D'une façon, c'est devenu une affaire entre ce qu'on appelle chorégraphie et ce qu'on appelle mise en scène. Peut-être que ça, c'est plus fort dans la soirée Weil que pour cette soirée. Mais cela est devenu plus du théâtre, mais seulement des danseurs peuvent faire ça. Je ne sais pas si d'une façon cela aura une continuation. Mais il y a toujours des points de repère, des choses qui ont déjà existé. Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas les gens qui étaient là avant. Je n'étais pas là. Les gens qui étaient connus, je pense qu'il y a quelquefois des développements dans l'abstrait qui ne vont pas plus loin. Je pense qu'on doit toujours recommencer avec l'homme et pas par quelque chose d'utopique.
Kathleen Demel, on part des danseurs, on repart de cette base-là pour travailler, c'est ce que dit Pina Bausch. Qu'est-ce qu'elle a représenté justement dans ce travail de ces metteurs en scène, Guy Cassiers, Ivo Vanoff, cette génération-là qui a cherché à trouver une autre place aussi pour le corps sur la scène flamande?
Oui, j'explique toujours ça avec... j'ai beaucoup travaillé avec Guy Cassiers et parfois on est en train de répéter et quand je vais à la maison le soir, je pense et je disais, oui, demain, je vais jouer la scène comme je suis sur un terrain de football. Félicitations. Et le jour après, il disait, voilà, il y a une petite pièce ici, 1 mètre sur 1 mètre. Je voudrais que tu joues la scène dans cette petite cadre. Et moi, j'ai dans ma tête l'imagination, mais je voudrais jouer comme j'étais sur un stade, une grande salle, une place pour jouer du football.
Un grand stade de foot.
Yeah. Oui, et je disais, oh, comment je vais le faire? Et pour moi, c'est très... comment je dis Moi, je trouve ça très intéressant de faire un clic et de jouer sur cette petite place que j'avais dans ma tête, mais sur une petite place. Et c'est comme ça qu'on réussit de faire des choses énormes et des choses très bizarres. Parce que moi, je ne suis pas une danseuse. À l'école, j'étais très grosse et on me disait toujours « Ah, tu sais parler, mais tu ne sais pas bouger, vraiment pas bouger. » Et lui, il m'a donné, et Ivo aussi, parce que j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années passées. C'est eux qui m'ont donné une limitation. Et c'est par la limitation que je pourrais...
exploser. Oui. C'est le geste que vous avez fait avec votre main. Vous êtes devenue l'actrice menue et musclée, physique, verticale aussi dans ce spectacle. Il y a une verticalité très forte des corps et des acteurs. Il y a un grand questionnement autour du ton qui passe. C'est d'ailleurs les choses qui passent le titre. Il y a cette idée que les jeunes vont faire des rôles de vieux, les vieux des rôles de jeunes, et que toutes les pistes sont un peu brouillées. D'ailleurs, Ivo Vanov s'amuse à interchanger comme ça les rôles.
Mais on peut faire tout au théâtre. C'est la magie du théâtre. Je peux jouer j'ai joué avec qui une pièce et j'étais une fille de 8 ans. Et c'est normal. Et je ne joue pas une fille de 8 ans.
Vous êtes une fille de 8 ans.
Oui, c'est vrai. Non, mais si on est honnête, si on ne fait pas trop, et si on est honnête sur scène, c'est comme ça, et la public, ils sont très intelligents, vous savez, ils ont beaucoup d'imagination. Oui, c'est vrai. Et si moi je joue une fille de 8 ans avec tout mon âme et tout mon corps et tous mes mots, et avec une sorte d'honnêteté, il voit une fille. Eux, ils voient une fille de 8 ans. C'est j'aime bien ça avec Ivo, et on rigole parce que dans le Dîner d'Ivo Bergan, c'est bizarre parce que...
Vous avez dit le titre, voilà, c'est gentil parce que c'est difficile pour moi.
Et il y en a des gens qui sont plus âgés, qui sont mes enfants, mais on rigole avec ça. Oui, papa et maman et maman. J'ai juste eu un texte de un des acteurs
qui vous envoyait un SMS.
Oui, et il est mon fils. Et il dit toujours, mouche, fais-le bien à l'interview. Mais il est plus âgé, c'est bizarre.
Et il vous appelle maman.
Oui, c'est ça.
Il y a ce temps qui est éprouvé, mais qui est aussi une manière de faire rentrer la fiction dans quelque chose d'un peu, drôle et parfois un peu malsain. Il y a ce tournant un peu shakespearien qu'on trouve aussi, c'est-à-dire on est mal à l'aise avec les gestes de la mère envers son fils. Oui. Kathleen Damen, elle est déplacée, cette mère, il y a quelque chose. Et finalement, on récupère un peu son souffle en riant de par ces jeux d'âge.
Oui, c'est pas dans le texte, mais pour moi, c'était une excuse de faire ça.
C'était votre idée?
Oui.
Que d'être une mère comme ça, un peu incestueuse?
Oui. Et Ivo, il disait, oui, parfait, oui, on fait ça. Et pour moi, c'était une excuse de donner des baisses à mes collègues. Non, c'est pas vrai, mais c'était correct, c'était juste. C'était une femme très... et très, très... comment on dit ça?
Tourmentée, travaillée par ce traumatisme.
Lonely.
Solitaire.
Solitaire. Et tous les enfants, ils passent. Je suis seule, qu'est-ce que je dois faire? Oh, j'ai encore une fille, alors je lui garde et je... Je l'aime tellement qu'ils ne peuvent pas me quitter. Je suis en train de penser à mon fils. peut-être je fais la même chose, mon Dieu. Oh, c'est dur.
C'est dur.
C'est vraiment dur.
Kathleen Damen, dans le spectacle, vous êtes plusieurs Ottilie.
Oui.
Il y a plusieurs rôles. Oui. Certains acteurs jouent plusieurs rôles de la pièce. Oui. C'est aussi cette manière de brouiller les pistes, ce petit jeu d'attention pour le spectateur, rajouté au fait qu'il doit lire les sous-titres lorsqu'il est à Avignon et suivre ce qu'il se passe sur scène, ce qui finalement fonctionne assez bien.
Oui.
Est-ce que vous accepteriez de nous dire un extrait de ce texte-là en flamand, ce que vous voulez ?
Ok, ça va, si vous voulez. il s'agit de Ottilie. Je joue la mère et la fille. Et Ottilie, la fille, elle habite à Nice. Elle est très heureuse. C'est pas le texte, hein, je vais juste expliquer. Elle est très heureuse avec sa amant italien. Il est très beau et très masculin, Aldo. Et c'est un texte qu'elle dit à Lotte. Son frère qui passe à Nice avec sa fiancée.
Sa lune de miel.
Oui. Ik kan niet meer ademen in Den Haag, Lot. Ik kan niet meer ademen in Den Haag. In onze familie daar leeft men niet. Er is altijd iets, ik weet niet precies wat, dat ik vreselijk vind. Het land, de huizen, de mensen, onze familie, mama en haar driftjes. Ja. Scènes. Oh, wat een jaloezie, mama en haar drie mannen. Ja, ik kan niet meer naar Den Haag. Maar jij was altijd zo rustig, zo kalm. Met rustige ogen, maar zo moe, jouw ogen. In onze familie, daar leeft men niet, daar heeft men geleefd. Dat voel jij toch ook? Jij kan net zo min ademen in Holland. Waarom ben je gebleven? Oh mama, kijk naar mij. Heb ik soms niet lief? Heb ik Aldo niet lief? Ik wilde liefde. Ik vond liefde. Ik heb met verschillende mannen geleefd, maar Aldo, van hem denk ik dat ik hem lief heb voor het leven. En Aldo is gelukkig met mij nu. We zijn gelukkig samen.
Merci Kathleen Damen de nous avoir fait un petit extrait. Il y a sur scène tout ce que les dispositifs scéniques peuvent permettre de faire au théâtre. Il y a des grands miroirs, il y a des fumées, il y a de la pluie, il y a justement de la musique en direct. C'est aussi ce grand spectacle-là que fait Ivo Vanov sur scène.
Oui, Oui, c'est Jan Verswijfeld. Il travaille toujours avec Jan Verswijfeld qui fait le décor et tout ça. Mais c'est unique, les deux ensemble. C'est un couple aussi. C'est depuis le début qu'ils travaillent ensemble. Et c'est vraiment close, très faire.
Intriqué, ils travaillent ensemble. Hein.
Oui, toujours. Et c'est bizarre parce que parfois on ne peut pas penser à Ivo sans Jan, et on peut pas penser à Jan sans Ivo. C'est vraiment c'est un ensemble, tous les deux. C'est parfait, c'est merveilleux, c'est bizarre et c'est beau en même temps. Et Harry De Witt, il fait la musique. J'ai travaillé avec lui déjà depuis des années. Il est un musicien extraordinaire.
Il joue du saxophone, hein, là sur scène, il accompagne.
Oui,
il joue. En improvisant ?
Non.
Où il joue, il suit ce qui se passe ?
Oui. Il y en a des comment on dit ça,
des horloges, des montres.
Des montres et tout ça. Il travaille avec ça. Il a il fait des sons très bizarres avec des instruments, mais ce ne sont pas des instruments. Il est très concentré, il est très passionné, il est formidable. Il est un homme extraordinaire.
et on va pouvoir aller tous l'écouter et vous admirer. Katiane Damel, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes actuellement à l'affiche de la pièce écrite par Louis Couperus, adaptée du roman de Louis Couperus et mise en scène par Ivo Vanoff, à voir jusqu'au 21 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph d'Avignon. Je vous donne rendez-vous quant à nous à 12h45 demain pour une nouvelle grande table. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane Viudès et Anne-Olivia Marchaison. À la réalisation, c'est toujours Marie Placé, et à la technique, Benjamin Perru, Pierre-Henri, à la sonorisation, Fabien Gosset et Benjamin Thuot. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécouté en podcast sur le site franceculture.fr.